Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance d'être à nouveau avec Camille Le Tertre. Donc, je dis à nouveau parce que, à la fois, j'ai la chance de pouvoir enseigner des cours avec Camille. Et puis Camille, ça fait plusieurs épisodes de podcast que tu m'accompagnes. Donc, merci pour tout ça. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir à nouveau, Guillaume. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et comme je te disais, j'essaie d'avoir le record du nombre de podcasts ensemble. Je m'en sors pas trop mal.
C'est bien parti, ouais. Bah, en tout cas, merci encore à toi d'être dispo pour partager tout ce que tu as à partager qui est intéressant, que je trouve intéressant. Je suis pas le seul, hein, parce que c'est bien d'écouter nos podcasts et les contenus qu'on propose. Et là, donc, du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était de développer sur un blog que tu as publié en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas, au début, fin 2023. Oui, c'était en novembre, c'était pour la date anniversaire. Mais ça, tu vas nous en dire un peu plus. Donc, en fait, c'est un blog basé sur une expérience personnelle qui part d'un article. Et on va essayer d'aborder tout ça tranquillement. Donc, si tu peux décrire cette histoire-là.
Oui, comme tu disais, donc, en novembre, c'était donc l'anniversaire, on va dire, de mon début d'activité au sein du service qui s'appelle Input à Londres, qui est donc un service spécialisé dans l'accompagnement de la douleur chronique et où j'ai vraiment le privilège de travailler avec une équipe multidisciplinaire qui est très riche et très, très inspirante. Et c'est un travail que je voulais vraiment avoir. Et j'avais déjà raté plusieurs entretiens d'embauche dans des services un peu similaires ailleurs dans Londres. Et donc, en novembre 2019, on m'a proposé un entretien pour un rôle dans ce service. Donc, j'étais très, très excitée de cette opportunité. Et pour cet entretien, on m'avait demandé de préparer, je ne sais plus, c'était 5 ou 10 minutes de présentation sur quel est le rôle du kinésithérapeute dans un service de management de la douleur persistante. Donc une question très ouverte et en fait très difficile à aborder. Et donc j'avais ça qui me travaillait un peu pour préparer l'entretien. Et à cette époque-là, c'était aussi un moment où donc j'étais en plein dans le master d'éducation à Brighton, hein, que tu connais bien. Et en train d'explorer des modèles d'éducation et des modèles de design d'éducation, d'intervention pédagogique. Et voilà, donc j'avais toutes ces choses-là qui flottaient un peu autour de moi. Et j'ai vu cet article-là, donc un article qui a été publié en 2014 par Alice Kolb et David Kolb, Angela Passarelli et Garima Sharma, qui s'appelle « Devenir un éducateur expérientiel ». Et c'est un papier qui est très intéressant, je trouve, parce qu'il va assez loin en fait, dans le descriptif aussi, il est très pratique, je trouve, et autant il y a un aspect assez cognitif et philosophique peut-être de qu'est-ce que c'est que l'éducation et l'apprentissage, mais il y a aussi un aspect très pratique de qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'aller faire une intervention pédagogique. Et donc, je l'ai bien aimé et je me suis servi de ça pour, en effet, réfléchir à ces rôles de la kinésithérapie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, en fait, entre l'éducation et la clinique. Quand on a une approche qui essaye d'impliquer le patient et de le rendre plus autonome. Alors, ça, c'est un peu l'histoire de ce blog.
C'est ça. Et du coup, sur des blogs, comme on essaye de faire un peu... un peu succinct pour que ça prenne pas trop de temps à lire, facilement accessible, etc. En fonction des sujets, voilà, on peut se permettre des formats différents pour pouvoir développer, hein, quand le sujet s'y prête, et puis là, c'est le cas. Et alors, effectivement, Du coup, tu m'as partagé cet article-là, et comme je t'ai dit, je pense que ça m'aurait bien aidé de le trouver celui-là pendant que je faisais mon module d'éducation à Brighton, parce qu'il est vraiment riche, il est vraiment très intéressant, il pique un peu à lire en une fois, mais voilà, super intéressant. Et le truc, il y a probablement des personnes qui écoutent, qui connaissent David Kolb et le cycle d'apprentissage de Kolb, hein, ce truc est très très connu, utilisé, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans cet article-là, ils l'ont fait évoluer. Et moi, j'avais jamais vu cette forme-là. Avec initialement, il y a quatre phases distinctes, et là, du coup, ils mettent des phases intermédiaires, et ils lient aussi les différentes situations d'apprentissage en fonction du contenu, donc quel style doit peut-être plus être ou pas, etc. Donc c'est vraiment un apprentissage de ce modèle-là que j'avais jamais vu et qui reste sous le format d'un article, qui n'est pas non plus un livre, donc qui est quand même relativement accessible. Donc les personnes intéressées par la pédagogie, là, on vous mettra le lien en description de la vidéo. Ça peut vous intéresser, je pense, oui. Maintenant, après, effectivement, alors là, le sujet du podcast, on peut peut-être en toucher deux mots si on veut, mais c'est d'aller assez rapidement sur la transition vers la pratique clinique et donc ce que tu avais proposé pour ton entretien d'embauche.
Et du coup, pour développer un peu sur qu'est-ce que l'apprentissage expérientiel, parce que c'est vraiment ça qui a guidé donc mon idée d'entretien et cette espèce d'infographie et qui en fait continue de quelque chose. Je continue d'explorer parce que ça me parle beaucoup. C'est cette idée d'apprentissage donc comme un processus qui est assez complexe et qui va au-delà d'un lien qui est simple, un simple lien de style d'apprentissage et de style d'enseignement, ou même au-delà d'un lien de. Je pense que tu as vu la même chose dans les modules d'éducation, mais tu sais, on parle beaucoup de cet alignement constructif entre, bon, tu as un objectif d'apprentissage et du coup, je vais designer une activité et je vais designer un mode d'évaluation voilà, qui fait sens. Et donc ça, c'est top, mais en fait, c'est presque un peu mécanique et ça manque un peu du côté très humain en fait de l'expérience d'apprentissage et ce que j'aime bien dans la description de l'apprentissage expérientiel dans ce genre d'approche par Kolb et d'autres, hein, et Dewey aussi et bien plus, c'est cette idée d'avoir l'apprentissage non pas seulement dans cette perspective très cognitive d'une connaissance qui se transmet de manière cognitive et cette invitation d'amener les émotions, d'amener l'environnement social, d'amener le corps même dans l'expérience et d'apprendre par tout ça ensemble, en fait, pas juste l'aspect théorique.
Ouais, c'est sûr, en fait, un des pièges probablement de ce modèle de d'abord on évalue ce que les gens savent, après on essaie de déterminer comment renseigner, on leur enseigne, on évalue ce qu'ils ont appris. C'est de très facilement tomber dans du didactique, du directif, enfin oui, du didactique en tout cas. Et ça, par rapport à la pratique clinique, du coup, ça peut facilement tomber dans un modèle de j'ai des connaissances, le patient en a besoin. Et mon travail, ça va être de lui rentrer des connaissances dans sa tête. Et du coup, ouais, ce mode expérientiel permet de s'appuyer plus sur ce que la personne elle-même peut apporter. L'apprenant, on va dire, elle-même peut apprendre si on la met en situation et pas seulement si on lui met des informations dans la tête. Donc, probablement que ça facilite cette méthode d'apprentissage active. Dont on connaît les bénéfices en éducation, que ce soit l'éducation pour les étudiants, on va dire, mais aussi pour les patients aujourd'hui, hein, c'est un truc qui est important.
Donc, ils définissent vraiment ça comme une approche qui est très holistique, très dynamique, qui est basée sur la relation aussi entre l'apprenant et l'éducateur. Donc, c'est quelque chose qui est très. Si on parle de centré patient, etc. En fait, donc c'est très centré apprenant, mais. Et du coup, c'est ce travail que va faire l'éducateur pour réussir à centrer et à rendre l'expérience la plus pertinente possible pour l'apprenant là où il en est dans son parcours d'apprentissage. Ils décrivent aussi que ça, évidemment, c'est un développement de connaissances cognitives, mais comme on disait tout à l'heure, ça, leur mot, c'est ça intègre un développement social et une maturité émotionnelle. Donc ça, je trouve ça intéressant de, voilà, d'ouvrir ce processus à vraiment l'humain et de garder la connaissance comme aussi quelque chose qui est très local. Quand ils parlent de développement social, c'est aussi cette prise de conscience que la connaissance, elle est située, elle est locale, elle a du sens par rapport au contexte dans lequel on l'utilise, dans lequel on la découvre. Et ça permet d'aller dans, voilà, justement dans ce qui est plus pratique et moins dans le général, où on a plein d'idées, plein de théories, mais en fait, on ne sait pas le transmettre dans quelque chose de... On ne sait pas l'utiliser dans notre contexte précis et unique.
C'est à nouveau, hein, s'appuyer, enfin, ça permet de faire entrer en compte le contexte de la personne avec toutes les dimensions qu'il peut y avoir derrière, et pas d'avoir un truc tout fait, un truc... C'est pareil aussi, à un moment, il mentionne le fait que ça aide à respecter aussi là où chaque personne en est. Et par rapport à des modèles qu'on connaît, nous, à l'école, pour passer de telle classe à telle classe, il faut que tu sois capable de cocher cette case-là. En fait, là, non, plus facilement, on accepte les gens aux différents niveaux où ils sont, et on les accompagne sans que ça génère autant de frustration que ça peut générer en tant que... enseignants, de potentiellement sentiment d'échec s'ils ne sont pas au niveau prévu. Et à nouveau, ça permet sans doute plus facilement de respecter le contexte de chacun. Et parce que si chacun avance sur des sujets différents, à des vitesses différentes, c'est qu'il y a des explications. En fait, ça dépend de chaque individu, quoi. Donc, à nouveau, comme tu dis, centré sur l'autre, plus adapté à chacun et moins standardisé. Et cette dynamique entre la personne éducateur, l'enseignant, l'éducateur et l'apprenant.
Ouais. Donc là, on voit déjà les liens qui se tissent, hein, avec tout ce qu'on appelle la santé au patient. C'est les mêmes centrés sur la personne. C'est exactement les mêmes principes de faire avec, de faire ensemble, de ne pas avoir une approche complètement descendante. De c'est moi qui ai le pouvoir et qui juste transmet une connaissance de manière... très unilatéral. Dans cet apprentissage expérientiel et l'enseignement expérientiel, il y a vraiment cette notion de, avant tout, reconnaître l'apprentissage comme une expérience qui est profondément humaine, de partage, de connexion. Et je trouve que ça, c'est assez beau et assez rassurant, dans le sens où c'est aussi reconnaître que pour la personne qui est dans le rôle de l'éducateur, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre d'approche, parce que ça demande d'être créatif, ça demande de savoir s'adapter sur le moment à chaque personne, ça demande donc du courage aussi, parce que forcément ça amène à une forme de vulnérabilité, parce qu'on se laisse, on offre à l'autre plus de pouvoir. Et du coup, ça peut faire peur, ça peut faire qu'on se sent un peu incertain de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sort de notre zone de confort, de ce qu'on fait, et surtout quand c'est des interventions répétées. Et là, je pense par exemple à des... en clinique, en fait, aussi, parce qu'on voit des patients toute la journée, mais des personnes qui ont une activité d'enseignement. En fait, tu fais une formation, tu fais deux formations, tu fais trois formations, puis tu commences à trouver un peu ta routine. Et en fait, ça demande vraiment de sortir de ça, d'essayer de ne pas tomber, évidemment se servir de son expérience et des répétitions, mais de ne pas juste tomber sur ça pour se reposer, quoi.
Je veux bien rebondir là-dessus, parce que clairement, en fait, moi, plus va et plus je me dis que c'est un confort illusoire, en fait. Cette notion de tu te mets, tu vois, tu dis, ok, si moi je suis vraiment expert d'un domaine et j'en sais plus que les gens à qui je vais enseigner, je peux me sentir protégé, dans le sens où je vais pouvoir leur apporter des informations, ils vont être intéressés parce qu'ils savent pas, donc du coup ça va les intéresser. Parce que si je leur dis des choses qu'ils savent, ils vont être soulevés, enfin ils vont pas être intéressés, donc voilà. Et je me positionne dans une situation où, comme je suis en position de supériorité, il faut que j'y réponse à toutes les questions. Et donc du coup ça me pousse dans une espèce de course à être absolument pour un tout, à pouvoir répondre à toutes les questions, etc., des apprenants. Et si j'y arrive pas, je me sens en difficulté. Alors que, et aujourd'hui, la connaissance est tellement facile à acquérir que je pense que ça est tellement vaste, enfin ça c'est pas qu'aujourd'hui, mais la connaissance est tellement vaste que c'est une vraie illusion de penser qu'on va vraiment garder le dessus tout le temps et d'essayer de tenir ce truc-là. Moi j'ai vu des personnes, je donnerai pas de nom, mais j'ai vu des enseignants dans des cours descendant comme ça, qui démarrent le cours en disant bah, c'est votre cours, posez toutes les questions que vous voulez, vraiment il faut s'adapter à vous, etc. Sauf que rapidement, les questions elles échangent parce que, un, ils veulent absolument délivrer tout le matériel qu'ils ont préparé, et du coup, ça les met en retard. Et deux, parfois, quand il y a des questions qui vont un peu challenger ce qu'ils disent ou leur positionnement, bah, ils n'aiment pas parce qu'ils sont dans cette position de, vu que je suis l'expert, je devrais être capable de répondre, je devrais être capable de. Alors, ça fait longtemps, hein, mais je me rappelle d'une personne aussi qui m'avait dit, et ça, bon, ça, c'est des choses. Enfin, je ne sais pas si les personnes se reconnaissent, j'ai aucun doute sur le fait que tout le monde a évolué parce que ça fait vraiment longtemps. Mais je me rappelle d'une personne qui m'avait dit un jour, Knowledge is power. Et en gros, c'était en mode, bah, plus moi j'ai de connaissances par rapport aux autres, et plus je suis en position de supériorité. Et c'est vraiment un modèle qui peut sembler rassurant, mais encore une fois, je pense que c'est illusoire. Et encore une fois, par rapport à la pratique clinique, d'être convaincu qu'on a toutes les solutions pour nos patients, bah, quand on y arrive, on se sent bien. Et puis, voilà, mais régulièrement, on a des situations cliniques, des solutions, on n'en a pas. Du contexte des gens, si on ne prend pas en compte, ça ne marchera jamais. Et on voit bien que ça crée tout un tas de difficultés. Donc, en fait, finalement, de réaliser ça, moi, je trouve que ça devient plus confortable. Peut-être au départ, c'est inconfortable parce qu'on n'est pas conditionné comme ça. Mais après, de réaliser que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, c'est normal de s'appuyer sur l'autre pour trouver des solutions. C'est normal de ne pas garder toute la responsabilité de on y arrive, on n'y arrive pas. C'est pas que moi, en fait, c'est nous deux ensemble. Donc à la fois quand on y arrive, bah, c'est encore mieux d'y arriver à plusieurs. Et à la fois quand on n'y arrive pas, bah, on se partage ce truc-là et puis c'est OK. Enfin, voilà, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore partir encore longtemps sur plein de dimensions. Mais je trouve que finalement, une fois qu'on passe ce cap-là, c'est plus confortable. Et si je dis ça, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on se fait pas rattraper aussi. Hein. De temps en temps, on ne se surprend pas à être ah ben mince, ça, j'ai pas la réponse, je suis pas à l'aise, etc. Mais plus c'est un chemin. Plus on devient à l'aise avec ça, et plus ben, l'expérience d'apprendre, l'expérience de faire d'éducation avec un peu d'enseigner, pardon, de faire d'éducation avec des apprenants, des patients, ça devient chouette à faire en fait.
Oui, c'est exactement. Donc il y a cette idée d'être un peu plus à l'aise avec le fait de ne pas forcément avoir toutes les réponses, mais aussi même quand on a cette connaissance-là, parce qu'on a ce rôle, et on va y venir, hein, ce rôle d'expert aussi, hein, c'est là pour ça qu'on est là, ce rôle d'avoir les connaissances, en fait, tout le challenge, c'est de réussir à transmettre, et c'est là qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui va avoir une approche très sur l'expérience, sur la personne, très dynamique. Qui sait s'ajuster, s'adapter, modifier l'approche d'apprentissage pour que ça fasse sens pour la personne à ce moment-là, dans sa vie où elle en est, versus quelqu'un qui va dire, bon bah voilà, soit ces enseignements et bam, je vous balance toutes ces informations avec les références, mais on parle pas de la pratique, ça c'est dans un cadre de formation par exemple, mais si c'est un cadre de clinique, quelqu'un qui va dire, bon bah hop, 1 heure de cours, sur la douleur. Mais on n'a pas parlé de qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vivre avec cette douleur-là. Et là, on passe à côté de quelque chose de, on a trans et là, on retombe sur cette idée de c'est juste cognitif. En fait, si ça ne fait pas sens pour la personne dans son environnement social, dans comment elle vit ses difficultés dans sa vie, comment est-ce qu'elle ressent tout ça d'un point de vue émotionnel, si ça n'a pas de sens, en fait, ça. On peut avoir balancé plein de trucs qui sont hyper intéressants, hyper importants, et on a ces réponses, entre guillemets, mais si la personne n'a pas capturé ça, ça ne servait à rien. Donc c'est vraiment ce travail de comment est-ce qu'on transmet cette connaissance que ce modèle-là, il est intéressant. Et après, ça revient à ce que tu dis, en fait, malgré la difficulté que ça représente pour la personne qui est dans ce rôle-là, en fait, ça amène énormément de satisfaction parce qu'on a énormément de connexions à ce moment-là avec la personne. C'est plus challengeant pour nous aussi. Donc, il y a cette idée de, bah, en fait, on ne s'ennuie pas parce que c'est toujours différent. Et j'aime bien cette phrase d'un autre article. En fait, c'est le titre d'un autre article d'une femme qui s'appelle Claire Duh, qui a publié ça en 2014 aussi. Cette idée de gift exchange. Donc, c'est un échange de cadeaux. Donc, moi, j'amène mon expertise et que ce soit de l'enseignement ou de la clinique, on offre ça. Mais en fait, il y a un échange, c'est réciproque. Il y a quelque chose que nous, on gagne si on reçoit quelque chose. Et ben, je trouve que c'est une belle façon de le formuler, cet échange de cadeaux.
Ouais, puis c'est un vrai truc. Enfin, ça fait vraiment écho hein, dans les cours. Moi, je sais que j'ai eu des projets d'enseignement autres que ceux que je fais. Et un des trucs qui m'a freiné, c'était de dire mais moi, je n'arriverai pas à délivrer le même contenu tout le temps. Enfin, je vais tourner en rond, ça me fatigue à force. J'y arriverai pas. Et là, bien sûr que quand on donne des cours ensemble, en pratique clinique réflexive, quand on donne des cours d'entretien motivationnel, bien sûr, on a un conducteur. Bien sûr, on a quelques diapos qui... Juste comme s'il y a des parties, bah, y a des parties didactiques, et il y a aussi des parties plus expérientielles, etc., avec des parties très réflexives, des échanges avec les apprenants, bah, du coup, ça nous amène toujours des visions un peu différentes sur le même sujet, et ça enrichit tellement notre compréhension des choses. Enfin, je veux dire, si je prends juste un concept isolé comme l'entretien motivationnel, je pense que si j'avais lu le bouquin 30 fois, ma compréhension, elle serait pas aussi bonne que d'avoir animé 10 formations, en fait, avec la richesse des échanges, etc. Et c'est clairement un cadeau, un enrichissement qu'on reçoit quand on a la chance de pouvoir enseigner dans ce genre de cadre. Ouais.
Exactement. Donc, voilà, je pense que c'est une introduction peut-être suffisante à ce niveau-là de ce modèle d'apprentissage et d'enseignement sur une approche très expérientielle. Et là, on l'a touché d'un point de vue un peu plus théorique, un peu philosophique, mais ce qui est intéressant à aller chercher dans l'article, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un modèle qui aide vraiment à mettre ça en pratique, à quoi ça pourrait ressembler. Mais peut-être on peut commencer à explorer ça dans le cadre de la clinique et de l'accompagnement des personnes qui ont des douleurs chroniques. Ça te va ?
Ouais, vas-y. Parfait.
Et donc, dans cette idée de à quoi ça ressemble et sur le modèle, en fait, donc ces auteurs décrivent 4 rôles principaux que l'éducateur expérientiel, donc là, moi, dans cette traduction par rapport au rôle du kiné, ça va être 4 rôles du kiné dans l'accompagnement de l'apprenant, du patient, de la personne. Je vais utiliser ces termes de manière un peu interchangeable, je pense. Et on va prendre un ordre parce qu'il faut, mais en fait, c'est vraiment quatre casquettes qui se changent en permanence au sein d'une même séance. Ce n'est pas forcément un ordre chronologique ou hiérarchique. Hein. Donc, ben, le premier qui me semble intéressant de regarder, c'est celui qu'ils appellent facilitateur. Donc les 4, juste pour les nommer maintenant, c'est facilitateur, expert du sujet, coach et évaluateur. Donc l'aspect facilitateur, quand on regarde un peu la description par rapport à ce modèle, c'est vraiment cette idée de créer un espace de rencontre, un espace qui fait que l'apprenant, le patient, va se sentir en sécurité et va se sentir capable et à l'aise et soutenu pour aller explorer des situations qui ont été vécues. Donc, ce côté facilitateur, il facilite peut-être la réflexion sur des choses qui se sont passées. Et les outils vraiment importants là-dedans, pour l'éducateur, c'est tout ce qui va aider à ce que ce climat de confiance se mette en place, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que thérapeute, pour créer cet environnement? Et ça passe à la fois par le setting de la pièce, hein, le fait d'être à l'heure, le fait comment on se présente, l'environnement qui reste confidentiel, par exemple. Et puis tout ce qui va aussi passer par le non-verbal, le fait d'être présent. Il parle beaucoup d'écoute active dans le papier, mais du coup, c'est une fois de plus, hein, c'est tous ces liens, c'est la même chose, d'être présent, écouter, valider, normaliser, refléter pour que le discours de la personne soit, que la narration soit facilitée et se déroule dans cette revisite de situations qui ont été vécues.
Ouais, je veux bien dire un truc par rapport à ça, si tu m'autorises. Ouais. En fait, ça peut arriver régulièrement qu'on puisse avoir l'impression que si en fait, on passe du temps à parler du problème de la personne et que la personne n'est pas là pour ça, elle est là pour venir, pour qu'on lui donne des solutions, elle vient chercher des solutions. Et parfois, ça peut paraître bizarre de se dire on va juste l'écouter, on va juste refléter ce qu'elle dit, on va juste résumer, on va poser des questions, on va la faire travailler encore une fois. Ben, faciliter sa réflexion par rapport à sa situation. Alors, clairement, il faut un cadre favorable, hein, comme tu as dit, à la fois le calmement et à la fois dans l'alliance thérapeutique, etc. Et on peut se dire, si à la fin du compte, c'est la personne qui a trouvé elle-même ses solutions, il y a des... spontanément, on peut se dire qu'on a servi à rien. Et, mais en fait, c'est ça, c'est un peu ça, faciliter. Et déjà, pour arriver à avoir envie d'essayer, il faut se rendre compte de l'intérêt de faire ça. C'est-à-dire que, bah, notamment, si vous avez une personne qui trouve elle-même ses solutions, alors peut-être que vous aurez moins de chocolat à Noël, peut-être que vous aurez moins de reconnaissance, encore que. Mais surtout, ce qui a un des gros impacts, c'est que ça va faciliter, ça va augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Elle va se rendre compte que par elle-même, elle peut trouver des choses pour elle-même. Et ça, la confiance qu'ont les gens, leur sentiment d'efficacité personnelle, bah, par exemple, pour qu'elles mettent en place des choses par elles-mêmes, comme des exercices à la maison, des changements de comportement, etc., c'est un des facteurs les plus importants identifiés dans la littérature. Mmh. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y apporter de l'importance, rien que pour ça déjà. Et après, il y a un truc qui est tout bête, mais parfois de se dire, en fait, les personnes, on leur offre un espace, comme tu dis, pour réfléchir. Il y a tellement de gens qui ne s'offrent jamais cet espace-là. Ils courent partout, on a tous des milliers de trucs à faire, on est sollicité de partout. Et ce temps de « je me pose, j'ai un cadre favorable pour réfléchir à mon problème », ben ça peut faire partie des cadeaux qu'on fait aux patients, et c'est vraiment pas anodin. Après, c'est à chacun de décider s'il considère que c'est son rôle en tant que kinésithérapeute. Voilà, chacun est libre de voir son rôle comme il le veut. Mais juste voilà, d'avoir conscience de ce qu'on peut offrir aux patients en faisant ça.
Et aussi, pendant qu'on fait ça, en fait, nous, on n'est pas, nous, en tant que thérapeute ou enseignant, on n'est pas passif, on n'est pas juste en train de renvoyer une image. C'est vraiment, c'est vraiment aussi un stade où on collecte énormément d'informations. Et quand on parlait tout à l'heure d'évaluer à où en est la personne dans son parcours, en fait, en écoutant, nous, à côté, on est en train de... aussi de vraiment d'avoir un peu une idée de... voilà, de quelles sont les croyances de la personne, quel est son environnement social, quel est le niveau de soutien qu'elle peut avoir par cet environnement-là, quel genre de signification cette personne attache à certains événements, et commencer à identifier, à faire un peu une forme de bilan presque, en fait, dans notre tête, hein, de voir, bon, il s'est passé ça par rapport à l'histoire, d'un point de vue des marqueurs biologiques aussi, de commencer à noter les changements qu'on peut... sans même avoir besoin d'aller prompter, poser ces questions-là de manière directe, d'avoir un sens de quel genre d'activités sont impactées, quel genre de mouvements sont évités. On fait un peu un tri aussi au niveau de nos drapeaux, etc., déjà des informations qui sortent. Alors, et puis voilà, c'est pas juste un moment où on est silencieux, donc il y a quand même un échange, mais c'est vraiment voilà, un espace... laisser la personne parler, être vraiment dans l'écoute, mais pour nous, c'est aussi un travail de commencer à identifier où en est la personne dans son parcours et commencer à trier quel genre de barrières cognitives ou émotionnelles peuvent se présenter dans la récupération et commencer à identifier ça. Et c'est des hypothèses, on n'est pas en train de dire c'est ça, mais le fait juste d'écouter, on commence à formuler un peu pour nous certaines hypothèses.
Clairement, clairement, on est à la fois dans utiliser des outils de communication par rapport à cette écoute active et à la fois dans notre raisonnement clinique et biopsychosocial, hein, et comme tu l'as dit, hein, pas psychosocial, biopsychosocial, donc dans toutes ces dimensions-là. Et ça aussi, ça fait partie de la richesse du truc, de pas seulement remplir des questionnaires tout faits qui peuvent nous rassurer, mais qui souvent oublient certaines dimensions ou accordent très peu de place à d'autres dimensions psychologiques et sociales. On va juste remplir une ligne, mais finalement, qui ne veut pas dire grand-chose. Quand on accompagne la personne et qu'elle développe, ça prend tout son sens, ouais. Et puis c'est là où on a affaire à une personne et pas seulement à un genou, à un dos.
Ouais. Dans cette partie d'écoute, on identifie aussi on identifie quelles sont les valeurs de la personne. Ça vient aussi dans cette partie-là de pourquoi ce problème-là, quel est l'impact de ce problème-là sur la vie de la personne et pourquoi ça a de l'importance pour la personne. Et pas juste partir sur l'assumption que y a un problème au genou, donc bah, ça doit être chiant pour faire ça ou ça ou ça, mais le fait de vraiment lui demander, ça veut dire quoi pour vous à ce moment-là dans votre vie, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qui a de l'importance pour vous, pourquoi c'est important pour vous de faire ces choses-là, et du coup pourquoi quand il s'est passé cette situation, comment ça a exploré, pourquoi vous avez, pourquoi ces réponses comportementales ou émotionnelles se sont présentées. Donc voilà, c'est vraiment un travail actif du côté du clinicien. Ouais. Même si on est plus dans de l'écoute et du reflet, c'est un rôle de mettre une base, commencer à travailler ensemble, de où en est la personne. Quoi.
Ouais. Ouais, et c'est un travail où parfois, c'est pareil, dans les formations, quand on travaille ces outils-là, quand les personnes s'entraînent à ça, parfois elles ont peur de qu'est-ce que la personne va penser en face, je suis juste en train de refléter ce qu'elle dit, elle va trouver ça bizarre et tout. Là, si vous intéressez vraiment au problème de la personne, elle va pas trouver ça bizarre, elle va juste être super dans ce truc parce que vous êtes sur sa problématique et elle est embarquée dedans. Et souvent, c'est comme on disait par rapport à tout à l'heure, avec des attentes de la crainte de la personne qui va dire « Ah, mais on fait rien aujourd'hui. » En fait, si vous êtes vraiment sur les sujets importants pour elle et que vous la faites avancer dans sa réflexion, que vous analysez son problème, que vous identifiez là où il y a des choses qui manquent. Et du coup, c'est là, alors je suis désolé, du coup, faut pas que j'anticipe trop, mais ça peut peut-être faire une transition. C'est là où vous allez pouvoir amener votre expertise aussi. Mais juste cette façon-là, c'est le fait de ne pas chanter l'expertise du patient, de pouvoir s'appuyer dessus un maximum, et quand elle n'est pas suffisante, de pouvoir amener notre expertise à nous, et du coup d'avoir cette place-là. Et parfois, encore une fois, notre expertise, c'est peut-être juste d'avoir bien évalué la situation, d'avoir bien repéré que la personne, finalement, elle a tout ce qu'il faut, de l'aider à le réaliser, et puis parfois... Alors, c'est pas le plus souvent, mais parfois de s'arrêter là, en fait. Et clairement, c'est pas... Enfin, quand c'est bien mené, c'est pas là où on a un patient qui nous dit « mais on fait rien ». C'est là, les patients, c'est eux, ils nous donnent les plus francs merci par expérience en nous disant au revoir. Ils sont vraiment reconnaissants, en fait, de tout ça. Donc, bon, mais après, c'est toujours pareil, c'est facile d'en être convaincu quand on a déjà eu l'expérience plusieurs fois. et tant qu'on n'a pas eu cette expérience-là, ça peut paraître un peu abstrait, mais...
Et en fait, et on va du coup bouger sur les autres rôles, mais si on est déjà en train de faire, dans tout ce que tu viens de dire, il y a déjà l'expert du sujet, il y a déjà l'aspect de peut-être coach, et donc tout ça se mélange, et toutes ces casquettes, elles sont, on jongle avec ça en permanence, en tout cas, c'est sûr que ça, elles sont complémentaires, ouais. Et la dernière chose qui me semble importante vraiment à dire sur cet aspect de facilitateur, c'est que, il y a ce truc de peut-être première séance de commencer la rencontre, mais ça c'est quelque chose sur lequel je me suis mise un peu à réfléchir plus récemment, mais c'est cette notion de confiance et de sécurité. En fait, c'est pas juste la première séance qui compte, c'est vraiment comment est-ce qu'on revient sur ça tout au long de la rencontre avec la personne, à chaque séance, comment est-ce que ça, c'est de pas juste bon, c'est bon, j'ai fait ça la première séance et hop, j'ai mis un petit tic là dans la case et c'est bon, c'est fait quoi. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Et voilà, c'est pas un truc de juste première séance et c'est fait quoi.
Et même parfois, au cours de la première séance, on a souvent cette dynamique quand même qu'on retrouve quand on fait des jeux de rôle, etc. Avec, ok, au départ, c'est la place du patient. Puis une fois qu'on a bien donné la place, après on la reprend et puis c'est parti quoi. Et là on déballe tout, on retombe dans notre modèle habituel, etc. Ce qui peut arriver, hein, parce que parfois si on se sent en difficulté, on se retrouve à se retrancher là-dedans, voilà, ça peut arriver. Juste de garder cette attention constante de comment je peux faciliter l'autre et d'amener les autres rôles, de les amener de façon la plus pertinente possible. Et encore une fois, il n'y a pas de... Comment dire? Peut-être que si, j'en sais rien, mais il n'y a pas de séance parfaite, il n'y a pas de... certainement pas de mode d'emploi, de recettes à suivre, etc. C'est des... Voilà, c'est tellement complexe que... on peut pas se dire on atteint la perfection. C'est... Il y a une formation que j'ai faite cet été là, sur quelque chose complètement différent avec des Américains. Ils disent, ils appellent l'autre truc The Infinite Game. Donc, c'est vraiment un jeu qui se termine jamais. Et du coup, si on a pour espoir de maîtriser un truc complètement et qu'un beau jour on pourra s'endormir et que ça deviendra automatique, moi j'ai peur que ça soit un espoir vain et que si on n'y arrive jamais, bah, du coup ça nous dégoûte. Non, toute la richesse est dans le voyage, dans l'apprentissage, en fait, d'avancer, de progresser. Et ça, ça rejoint vraiment le cycle de Kolb. C'est pas un truc fini, quoi. C'est récursif. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais.
Et donc, un autre des rôles, c'est celui, donc, comme on disait, d'expert du sujet. Et donc, bah, exactement ce que tu disais, en fait, c'est de par notre écoute et le sens de tri, le sens de par l'histoire qui commence à se mettre en place et cette co-construction de la connaissance qui commence à se créer entre le patient et le clinicien, ce travail qui se fait ensemble, ces liens qui se tissent, on commence à identifier quels sont les genres, quel type de connaissances ont besoin d'être transmises. De vraiment pas juste déballer, comme on disait tout à l'heure, notre pain education session, de juste y aller et de balancer tout ce qu'on sait sur la douleur parce qu'on est passionné et que c'est hyper intéressant d'aller parler de tout ça. En fait, non, le patient, lui, peut-être qu'il s'en fout. Et vraiment juste d'aller sélectionner qu'est-ce qui fait sens. Et en fait, on retourne toujours sur cette notion de meaning, cette notion de faire sens, de donner, je sais pas une meilleure traduction pour ça, mais...
Ouais, bah, oui, que ça soit pertinent pour lui, mais en tout cas, oui, que lui... Il voit un lien avec ce qui lui arrive, quoi. Ça a du sens pour lui, en fait.
Ouais. Et donc là, on est vraiment sur des outils qui sont bah, de pas imposer, de pas imposer une, voilà, des notions qui paraissent pas pertinentes. Et vraiment, cet art d'aller choisir à ce moment-là, dans le contexte précis de la personne, par rapport à l'histoire, à la narration qui est en train de se faire, quel genre de connaissances sont utiles pour aider à ce que la narration elle se développe dans une direction qui est aidante et que la personne adopte ça, que ce soit sa narration à elle qui se développe pour que ça fasse sens, pour que ce soit aidant, plutôt que peut-être l'idée de très directive, de reprendre le pouvoir sur ah ben voilà, c'est vraiment que vous sachiez ça et puis je vous le donne parce que si vous le savez pas, vous êtes coincé. Et donc là, évidemment, ça a fait appel à toutes nos connaissances de nous en tant que kinésithérapeutes, d'anatomie, de biomécanique, de pathologie, de récupération, et toutes ces choses-là qui sont hyper, évidemment, dans notre champ de pratique, dans notre expertise. Et peut-être aussi, et ça, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me pose cette question, je me demande si dans cette idée d'expert du sujet, il n'y a pas... aussi le rôle d'aller normaliser certaines réponses aussi. On est presque expert d'avoir vu des situations plusieurs fois et de pouvoir normaliser à la fois par rapport au côté biologique, de récupération, de temps que ça peut prendre, etc. Mais aussi d'aller normaliser des émotions, d'aller normaliser la détresse, d'aller normaliser un sentiment d'injustice que quelqu'un peut exprimer. Et même si on n'est pas expert dans ces choses-là, parce qu'on n'est pas des psychologues, parce que ça, on a quand même cette expertise de pouvoir reconnaître des schémas et peut-être de juste normaliser ça avec le patient. Pour moi, je le mettrais dans cette branche d'expert du sujet.
Mais... Clairement, tu sais, enfin, après, il y a le distinguo entre expertise, expérience, je ne sais pas s'il existe, mais on peut s'appuyer sur notre expérience. Et puis, encore une fois, si... Enfin, déjà, notre expérience clinique peut faire qu'on a déjà vu des personnes qui, dans cette situation, nous ont exprimé ces souffrances-là. Et du coup, on peut dire à d'autres personnes qu'effectivement, dans ces situations, il semble normal d'avoir ces souffrances-là, parce qu'on a déjà vu, en fait, on a déjà vu d'autres personnes dans cette situation-là. Mais il y a aussi, et encore une fois, c'est une façon d'adopter un paradigme biopsychosocial et pas juste dans le bio. Et nos connaissances, elles ne sont pas que dans le bio, même si on n'est pas des psychologues. Si notre expertise, c'est de connaître des études, il y a plein d'études qui mettent en avant qui mettent en avant la souffrance des patients de ce qu'ils vivent, au-delà de « je me suis fait mal au dos, je me suis fait mal au genou », l'impact psychosocial. Et donc, si nous, on est experts, on se tient au courant de la science sur le sujet, ces dimensions-là, elles sont dedans. Et donc, de normaliser auprès de la personne, bah oui, effectivement, enfin, ne serait-ce que soit les patients que j'ai vus dans votre situation, soit quand il y a des études faites sur des personnes qui vivent ce que vous vivez, que ce soit quantitatif avec des questionnaires, que ce soit qualitatif avec l'expérience que vivent ces gens-là, voilà, c'est de l'expérience ou de l'expertise professionnelle en fait, qu'on va amener aux patients. Parce que clairement, ça peut faire partie des choses où le patient se sent isolé parce que lui, il s'imagine pas ça. Je c'est rigolo parce que ça me fait penser. J'ai mon beau-père qui, il y a quelques années, a eu mal au dos, mais à être bloqué, à se retrouver par moments à quatre pattes par terre, à pas pouvoir se relever, etc. Et plusieurs fois, il m'a dit, mais tu sais, moi, j'avais jamais eu mal au dos de ma vie. Et quand les gens, ils avaient mal au dos, je disais, ouais, c'est bon, ils veulent pas aller travailler, quoi. Et donc, en gros, tant qu'il n'avait pas eu d'expérience, et là, d'un coup, qu'il avait l'expérience, ben, il peut se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah bon, il avait vu d'autres personnes, ça l'a fait réfléchir. Mais parfois, on a des patients, c'est la première fois qu'ils vivent ça, ils connaissent personne d'autre qui ont vécu ce qu'ils vivent. Ils peuvent se dire, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que je réagisse comme ça? Et nous, on sait. Notre expérience, notre expertise, la science nous dit. Donc, clairement, moi, je suis de ton avis aussi, que ça a vraiment toute sa place ici, ouais.
Et c'est intéressant que tu redis plusieurs fois le mot expérience, et donc ça, c'est ce dont on parle depuis le début, mais c'est important de le remettre que cette partie expert du sujet, certes, elle est plus directive, parce qu'on amène quelque chose, mais elle est quand même, voilà, je vais répéter la même chose différemment, mais elle est quand même vraiment basée, et elle a peut-être comme point de départ l'histoire et l'expérience du patient, et vraiment de repartir de qu'est-ce qu'il a vécu, le sens qu'il y a donné, et d'amener cette autre perspective, et de vérifier est-ce que ça a fait sens, est-ce que ça, et de pas juste dire voilà, que nous on pense que c'est bon, c'est dit, et je pense qu'il y a un lien là aussi avec tout ce qui est technique de communication, d'entretien motivationnel, mais vérifier qu'est-ce que la personne en a compris, qu'est-ce que ça veut dire pour elle.
C'est ça, c'est une façon de faire de façon collaborative, avec l'élément aussi de lui demander si ça l'intéresse. Ouais.
Ensuite, on peut passer au rôle du coach. Donc il y a un autre des rôles décrits par cette équipe là, qui est vraiment ce rôle. Là on était peut-être sur des expériences vécues, des expériences passées, et là notre rôle ça va être d'amener des nouvelles expériences et de se projeter dans des nouvelles situations avec les nouvelles connaissances que la personne a eues, avec ce nouveau recul qui a permis d'avoir d'autres perspectives, peut-être un nouveau sens à ce qui se passe. Et on lui a peut-être fourni des outils aussi, que ce soit des exercices ou que ce soit des outils issus de la psychologie. Mais on lui a fourni des outils pour se lancer dans de nouvelles expériences, des expériences comportementales vis-à-vis de mouvements, vis-à-vis de l'activité physique. Pour amener ce changement, en fait, parce que, et c'est là que c'est intéressant parfois, et pour revenir au rôle de la kiné dans le centre de douleur chronique, où c'est une crise identitaire qui se répète, mais c'est quoi notre rôle par rapport à nos collègues psychologues, etc. Et en fait, de plus en plus, j'arrive à me sentir à l'aise avec l'idée, nous, on a vraiment ce rôle de mise en action. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à parler de ce qui s'est passé, d'un problème, et de le normaliser, de valider, de dire comment on ferait les prochaines fois, peut-être, etc. En attendant, si on n'a pas bougé de notre chaise, en fait, l'apprentissage, il n'est pas vécu. Et c'est ça qui est beau aussi dans cet apprentissage expérientiel, c'est le truc de se jeter dans le... d'y aller, quoi. Parce que c'est au moment où on va le vivre que toutes les difficultés vont se présenter. On peut les anticiper, mais le moment où on est... et on a un peu la trouille qui se présente, ou la colère qui surgit, ou la frustration, ou la déception, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai apprentissage qui se met en place. C'est le faire, quoi. Donc ce rôle de coach, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, il va y avoir certaines personnes, juste le fait qu'elles comprennent leurs problèmes différemment, elles seront capables par elles-mêmes de modifier leur comportement. Ça peut arriver, ça. Après, effectivement, et régulièrement, dans un contexte de douleur chronique, enfin persistante, mais même sans douleur persistante, ça arrive régulièrement que tant que la personne, on ne l'a pas fait bouger, on ne l'a pas fait faire, on peut essayer de lui expliquer tant qu'on veut. Et là, c'est des situations où on peut se retrouver à être bloqué dans ces cycles-là, à être bloqué au stade de « j'essaie de me conceptualiser ». Et chacun vient avec ses explications, sa compréhension, son analyse, mais on est bloqué tant qu'on n'a pas fait. Et en fait, on ne pourra pas évoluer notre compréhension. Soit la compréhension du patient, parce que soit c'est le patient, si tant qu'il n'aura pas vécu que s'il bouge un peu différemment, s'il ne bloque pas sa respiration quand il bouge, enfin j'en sais rien, ça lui fait pas mal finalement. Donc finalement il peut oser se pencher alors qu'il avait peur, etc. Mais tant qu'il l'a pas fait, on peut essayer de prendre le temps qu'on veut, on n'y arrivera pas. Et il y a aussi de notre côté le fait que nous on a des reconnaissances de schéma, on va s'imaginer que ça va se passer comme ça, mais tant qu'on l'a pas vérifié avec la personne, parfois ça se passe pas comme prévu, quoi. Donc il faut se créer cette expérience là nous aussi pour pouvoir ajuster ce qu'on va lui proposer, d'où l'importance de mettre en mouvement, et comme tu dis, ouais, c'est un truc, les psychologues, ils s'appuient probablement pas autant là-dessus, ouais, sur autant, il y a peut-être des techniques de, comment dire, d'exposition graduelle par rapport à des phobies, à des choses comme ça, mais probablement qu'ils l'utilisent pas pour faire bouger les gens, parce que peut-être qu'ils ont pas non plus la confiance qu'on peut avoir oui, clairement, au niveau biologique, il n'y a pas de danger, quoi.
Oui. Oui, c'est ça. Et cette notion d'exposition graduelle, elle est vraiment importante. Et ça peut être une exposition graduelle à un mouvement, mais ça peut être une exposition graduelle à une situation. C'est des gens qui vont éviter de... Je sais pas, quelqu'un qui ne veut pas utiliser une aide de marche, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas être vus comme quelqu'un qui a un handicap, ou parce que voilà, c'est quelqu'un de assez jeune et qui va sentir tout le stigma externe et intégré aussi l'externe. Ben, tu vois, ça peut être des expositions de le faire ensemble au cabinet, de marcher ensemble sur un plateau technique où il y a aussi d'autres gens, avant de le faire ensemble, peut-être même dans la rue, ensemble devant le cabinet, avant qu'ils aillent le faire eux quand ils vont faire leurs courses. Tu vois, donc ça peut être à la fois sur le mouvement ou sur une exposition à des situations. Et à chaque fois, d'amener cette notion de narration, d'histoire et de comment est-ce que la personne fait sens de ses expériences pendant ces nouvelles expériences. On facilite à nouveau la réflexion pendant l'expérience nouvelle. Donc il y a ça qui est important. J'allais dire autre chose qui m'est sortie de la tête, mais ça va me revenir.
Là, c'est marrant parce que tu vois, on est au stade de coach et le mot facilité revient. Ouais. Comme tu dis, tout ça c'est intégré en fait. Hein.
Ouais.
Intégré, complémentaire, ouais.
Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que cette idée de coach et de faire, en fait, je pense qu'on sous-estime souvent l'apprentissage que le corps peut faire, à quel point le corps sait en fait et se souvient, même si nous on a l'impression qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas appris. Et donc, il y a vraiment ça dans cette idée d'exposition graduelle, de se confronter à des choses qui peuvent être qu'on a évité peut-être. Et parce que les fois d'après, en fait, c'est plus facile aussi de tolérer ou d'être avec les choses qui peuvent être, que ce soit une fois plus émotionnelle ou physique. Ça va ensemble. Mais voilà, le pouvoir du corps dans l'apprentissage est souvent vraiment un peu perdu, un peu sous-estimé.
Mais tant qu'on n'a pas redonné l'expérience à... Enfin, ça, c'est... Ne serait-ce que si on prend d'un point de vue un peu bio aussi, ça, c'est une façon de donner la preuve à notre cerveau que de faire ça, c'est pas dangereux, finalement. Enfin, je l'ai fait, et finalement, il s'est rien passé de grave. Donc, cette notion de... Il a besoin de preuves pour arrêter de prévenir aussi fort avec de la douleur, d'empêcher aussi fort avec des verrouillages musculaires, tout ce qu'on veut. Il a besoin d'expérience. Et après, c'est pas comment dire. C'est pas absolu, parce que parfois, effectivement, vous avez des personnes, si cognitivement vous les avez un peu rassurées, bah, l'expérience pourra se passer plus facilement. Alors, si on n'a pas du tout rassuré cognitivement, on n'y arrivera pas. Enfin, voilà, encore une fois, il n'y a pas une voie, quoi. C'est différentes choses, tout ça, ça se complète. Et tu sais, ce que tu disais par rapport au fait d'utiliser une canne, ça rejoint ça aussi. L'idée qu'on a de l'image sociale qu'on va renvoyer, bah, le jour où on fait, finalement, on va peut-être se rendre compte que finalement, c'est pas cette image-là, ou c'est pas. Et puis, ça va nous aider à avancer, ça va nous aider à créer une étape, ça va nous aider à réaliser que peut-être que c'est qu'une étape, et que oui, pendant un certain temps, on va renvoyer cette image-là, mais si ça nous permet après de retrouver à nouveau une image plus en accord avec ce qu'on souhaite, c'est juste une étape, en fait. Enfin, voilà, c'est pas définitif, mais enfin, bon. Tout ça, c'est intéressant de relier à ça aussi, ouais.
Et donc, dans les outils qui sont décrits, là, enfin, c'est ce qu'on a dit, hein, il peut y avoir, donc, par rapport à l'expérience, il peut y avoir des jeux de rôle, mais il peut aussi y avoir, créer des nouvelles situations dans lesquelles le patient ou l'apprenant peut aller tester ces outils. Donc, il y a aussi créer des nouvelles situations qui semblent, avec cet espace de sécurité, avec cet espace un peu de sauvetage, avant de complètement... lancer la personne dans le grand bain, on va dire. Et donc, ces outils de motivation aussi, de renforcement d'efficacité personnelle, avec aussi tous ces feedbacks qu'on peut donner sur ce que la personne a réussi à faire aussi, à construire un peu sa confiance dans ces expériences-là. Voilà, tout ça fait partie du rôle coach. Et là, on est sur donc des nouvelles expériences.
Oui.
Et on passe au dernier, où il y avait plus que tu voulais dire sur coach.
Non, ça va. Parfait. Non.
Et donc le dernier rôle dont on n'a pas encore vraiment parlé, même si en fait on en a parlé sans le nommer tel quel, c'est cette notion d'évaluateur. Et là, c'est peut-être le plus difficile à traduire pour moi d'ailleurs, entre l'article et une notion expérientielle ou d'éducation, d'enseignement, où il y a une évaluation quand même de l'apprentissage des connaissances, mais on n'est pas en train de faire passer un test à nos patients. Donc, c'est plus difficile à traduire, mais en essayant d'y réfléchir, en fait, ça revient peut-être à des choses comme fixer des objectifs et voir si on les a atteints ensemble. Donc, il y a quand même... Je me dis que ça regroupe à nouveau tout ce qui est facilitation, etc., mais aller identifier les objectifs qui sont importants pour la personne, aller identifier les valeurs qui sont importantes pour la personne, pour en tirer des objectifs qui ont du sens, avec lesquels on peut aussi être assez flexible, parce que parfois, toujours ce piège d'avoir des objectifs qui sont très fixes, et en fait, on n'est jamais vraiment satisfait si on ne les a pas atteints exactement comme on les avait imaginés. Donc le travail des valeurs, il a cette pertinence-là. Donc je me dis qu'il y a peut-être ça dans l'évaluation, d'élaborer des objectifs, revoir, est-ce qu'on les a atteints, est-ce que ça a toujours du sens, est-ce qu'ils ont changé par rapport à la personne.
Tu vois, ce que ça m'évoque, c'est cette notion de... On a régulièrement, quand on demande avec quel type de situation clinique ou quel type de patient, nos collègues peuvent se sentir en difficulté. Régulièrement, il y a la notion qui vient, enfin l'exemple qui vient de ce patient qui revient, qui va objectivement mieux. Et quand on lui demande comment ça va depuis la dernière fois, il dit ça avance pas, ça va pas mieux. Et en fait, qui ne voit pas les progrès dans sa situation. Et moi, je me dis, c'est un mélange de. Souvent, le réflexe, c'est d'avoir envie de convaincre que ça va mieux. En lui disant, mais si, regardez, c'est ça. Alors, on peut se dire, du coup, un conseil qui vient assez facilement, ça va être. De mesurer, faites des mesures, faites des scores, faites des machins, comme ça vous refaites les scores et vous lui montrez. Mais ça peut être assez contre-productif parce que ça peut être une façon de nier ce qu'il vit. Il faut faire gaffe à ça. Il y a des patients, ça va les aider hein, de réaliser ça, ça va leur faire du bien. Et il y a des patients, ils vont pas se sentir compris et entendus dans leur souffrance et là ça peut être complètement contre-productif. Donc avoir un peu de recul par rapport à ça pour voir ce qu'on en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais du coup, quand on le fait, avec qui on le fait, comment on peut mieux anticiper avec qui c'est adapté de le faire, à quel moment ou pas, si on décide de le faire, qu'est-ce qu'on surveille de ce qui peut arriver, comment, en fonction de ce qui peut arriver, on peut réagir. Enfin, voilà, ça. Du coup, vous voyez, c'est complexe, encore une fois, hein, c'est pas blanc ou noir, et puis hop, on fait ça, c'est fini. Mais tu vois, cette notion d'évaluer, et puis d'évaluer tout un tas de trucs, nos théories, on s'était dit on va aller prendre cette approche là en imaginant que une des causes du problème c'est ça, et du coup le pronostic attendu, enfin l'évolution attendue c'est ça, de vérifier si ça évolue comme attendu, et du coup moi je vois beaucoup cette histoire de réévaluer en fait, et donc c'est réévaluer, c'est les deux, c'est comme on disait tout à l'heure, si jamais on lui a facilité les choses et que la personne elle-même, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a identifié ensemble que effectivement de l'activité physique ça pourrait l'aider, et on s'est retrouvé avec un choix de aller courir, aller nager, aller faire du vélo. Je dis franchement, c'est un très basique hein, ce que je dis, mais voilà. Et sur la séance d'avant, la personne elle a dit, ça semblait ok pour elle, et puis nous ça nous semblait adapté d'aller faire du vélo. Ben finalement, est-ce que d'aller faire du vélo, soit c'était super facile et il n'y a pas eu d'impact du tout, soit c'était vachement dur et c'était pas si accessible que ça, soit son vélo, il a une chambre à air qui est crevée, elle a pas eu le temps d'aller chercher un autre, et du coup c'était juste injouable de faire du vélo, où il est pété parce qu'elle s'en était pas servie depuis 10 ans, enfin j'en sais rien. En fait, de pouvoir réévaluer la situation et de se dire, ok, ben, comment on fait maintenant? C'est quoi de plus facile pour vous? C'est quoi le plus adapté? Est-ce qu'il faut aller faire réparer? Parce que vraiment, tout le reste, ça ne vous intéresse pas et que vous savez que ça peut vraiment vous plaire? Ou est-ce que... Et encore une fois, là, moi, je pose des questions comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'on va dire aux patients. On va lui poser des questions vertes. Hein. Là, j'imagine dans quel sens ça peut partir, mais est-ce que finalement, le vélo, pourquoi pas, mais il hésitait fortement avec la course à pied. Et finalement, la course à pied, ça peut lui paraître envisageable, mais il a quand même des craintes. Et que par rapport aux craintes, on peut lui apporter de l'information qui peut diminuer suffisamment ses craintes pour qu'il puisse avoir envie d'essayer. Voilà. Moi, je vois ça aussi dans ce truc d'évaluation et de réévaluation et de rester dans la réflexivité à la fois nous et à la fois d'aider le patient à être réflexif. Finalement, on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée. Soit ça l'est, et du coup... Cool, allez, on continue. Est-ce qu'on peut ajouter des choses? Est-ce que c'est pas le moment? Soit ça ne l'est pas. Comment on fait quoi? Et de faire ça à nouveau à deux, ça m'évoque ça, je pense.
Ouais, merci. Du coup, tu rajoutes plein de trucs à l'aspect évaluateur sur lequel j'étais peut-être un peu plus incertaine de comment traduire cette notion d'enseignement sur la clinique. Mais tu as ajouté plein de trucs, c'est cool. Et l'autre truc que j'avais... Pardon ?
C'est, en tout cas, c'est ce que tu as présenté initialement, c'est ça qui me vient, tu vois. Je dis ça au final. Ouais. Donc, c'est toi qui m'as amené à cette réflexion-là.
Et le dernier truc que j'avais ajouté, moi, dans mon infographie, et qui est pas du tout dans l'article initial, mais qui est dans d'autres papiers ou bouquins sur l'éducation, hein, et ce que tu viens de nommer, c'est cette idée d'être de s'auto-évaluer, et du coup, alors ça fait peut-être un peu autoritaire de dire ça, mais c'est vraiment cette idée de rester dans une approche très réflexive nous-mêmes, de comment est-ce qu'on a abordé des situations, qu'est-ce qu'on a bien réussi à gérer dans l'approche d'une rééducation, d'une séance, sur une interaction particulière, de revisiter ça pour nous, pour continuer, nous, d'apprendre aussi de revisiter presque ces quatre idées de faciliter, être expert et coach pour nous-mêmes, de continuer d'apprendre de nos propres expériences avec les patients, pour continuer d'apprendre à nous-mêmes quels sont nos points forts, mais aussi quels sont les endroits où on a tendance à peut-être éviter certaines questions, éviter certaines conversations parce qu'elles sont difficiles et parce qu'elles nous évoquent de l'inconfort, et donc on préfère peut-être éviter certaines choses, peut-être que j'ai été trop directif sur cette séance, et en fait je me demande si vraiment ça a eu sens pour la personne, peut-être et du coup d'identifier la prochaine fois comment est-ce que je vais pouvoir gérer. Donc tout ce travail de réflexion, de pratique clinique réflexive, je l'avais ajouté à ce rôle d'évaluateur pour s'appliquer sur nous, et donc quelque chose qu'on peut faire seul. Y a pas mal de modèles qu'on peut utiliser pour nous guider dans cet exercice, ou bien dans une relation de supervision avec quelqu'un d'autre, ou en groupe de pairs, comme on aime bien pouvoir le proposer ensemble, dans les formations qu'on fait tous les deux, Guillaume, c'est l'idée de donner des outils pour faciliter la réflexion de quelqu'un d'autre, plutôt que d'être dans quelque chose de descendant et de directif, mais voilà, de guider un pair à faire ce travail-là. Je pense que c'est vraiment essentiel dans tout domaine de clinique, et donc là, vraiment essentiel aussi donc, pour moi dans ce rôle et dans cette clinique multidisciplinaire.
Oui, qui encadrait tout ça, hein, cette notion de réflexivité-là. Et... ouais. Moi, ça me fait penser à un truc, alors je ne sais pas si je veux bien le sortir, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu ça, mais tu sais, il y a cette espèce de notion de, parfois, on dit ne pas faire aux autres ce qu'on ne se ferait pas à soi-même, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et après, une façon de tourner dans l'autre sens, parfois, c'est de se dire, mais ne pas se faire à soi-même ce qu'on ne ferait pas aux autres. D'être un peu bienveillant avec soi. Et du coup, il y a un peu cette notion-là de, par rapport à ce que tu as dit, d'acceptation, de se rendre compte que parfois, on n'a pas fait aussi bien qu'on voudrait. Et de ne pas se blâmer, de ne pas se plomber, de se dire, ok, peut-être parfois comprendre le contexte, parce que là, on parle des patients avec leur contexte particulier, d'être humain et de leur vie, et du coup, de comprendre que, cette personne-là, encore une fois, très basique, mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure, réparer un pneu de vélo, elle sait pas faire, enfin, ça la souffre, j'en sais rien, ou elle a des difficultés, c'est compliqué pour elle, il n'y a personne pour l'aider, tout ça. En fait, nous, on peut se retrouver parfois dans des contextes où ce truc-là qu'on n'a pas bien fait, pas aussi bien qu'on aurait aimé, il y avait peut-être des raisons. Alors après, le but, c'est pas de se cacher derrière en se disant, c'est bon, c'est cuit, mais de savoir accepter la situation, d'être un minimum bienveillant avec soi-même pour pouvoir justement y réfléchir plus sereinement et se permettre d'être plus constructif, et que ça ne plombe pas notre confiance. Donc, comme on parlait tout à l'heure du sentiment d'efficacité personnelle. Et après aussi, de cette troisième étape, les choses qui nous tiennent à cœur de faire pour les autres, pour leur bien-être, parfois penser à se le faire à soi. et donc, du coup, comme tu as dit, de ne pas oublier de repérer ce qui s'est bien passé, là on a bien réussi, etc. Parce que, encore une fois, c'est par notre sentiment d'efficacité personnelle qu'on se sentira plus en sécurité, non seulement les autres fois dans nos interactions, qu'on prendra plus de plaisir et qu'on ne sera pas dans un cadre à paniquer parce qu'on a peur de ne pas faire la bonne chose, et du coup qu'on aura encore plus de difficultés à faire des choses qui fonctionnent, et plus on gagne en confiance en soi, et plus ça nous permet d'être serein quand on réfléchit à nos pistes d'amélioration, en fait. Et de voir ça comme quelque chose de constructif, d'intéressant, qui nous donne envie d'y aller, plutôt que pas trop oser y aller parce que c'est trop à risque par rapport au peu de sentiments d'efficacité personnelle, d'estime de nous-mêmes, etc. Trop à risque de chambouler ce qui nous reste et du coup, pas trop y aller. Du coup, dès qu'on nous challenge un peu là-dessus, de se mettre sur la défensive, ce qui peut du coup se comprendre, hein. Et là, à nouveau, on fait le parallèle de un patient qui se met sur la défensive, bah, il y a peut-être des raisons. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est toujours ces histoires de les mêmes principes, mais dans plein de dimensions et de directions différentes. Et donc, effectivement, voilà, cette pratique réflexive qui peut vraiment nous aider à avancer avec un bon contexte, des bonnes bases, un cadre facilitant à nouveau. Comme tu dis, il y a différentes façons. Et donc, dans notre formation, on en propose plusieurs. Et même, on avait un truc qui est toujours disponible. C'est le questionnaire réflexif qu'on peut utiliser tout seul, qu'on avait un petit peu transformé tous les deux là. Donc ça c'est pareil, si j'espère j'y penserai, je mettrai en lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent auto-analyser tranquillement une situation clinique sur laquelle ils ont envie de réfléchir. Soit que c'est bien passé, soit que c'est moins bien passé, etc. Tout un cadre, tout un une posture, ouais, une posture et des outils quoi, pour pouvoir avancer là-dessus. Et progresser dans ces différents rôles-là dont tu as parlé, que tu as
Bah,
mis
c'est
en
des
lien
jobs, hein.
avec la pratique auprès de patients douloureux, persistants, mais
Oui, bien sûr.
voilà, c'est tous les... Ouais, mais je veux dire, c'est tous les patients, enfin, je veux dire, c'est tous les patients avec chaque dimension, plus ou moins en fonction de la personne en face de nous, et il faut faire attention, enfin, non, chacun fait ce qu'il veut, mais. Je pense que ça change aussi ça. Mais il y a encore cette notion-là de ouais, mais bon, un trauma, enfin une entorse de cheville, on n'a pas besoin d'aborder toutes ces choses-là. Moi, je vois que les médecins avec qui je bosse, et puis même l'accès direct, quand vous voyez une entorse de cheville rapidement et qu'elle n'a pas le temps de trop s'inquiéter, d'adopter des comportements défavorables à sa guérison, etc., dès le début. Par rapport à si elle adopte des comportements défavorables sur la base d'inquiétude par rapport à son entourage, etc., eh ben ça fait une trajectoire qui est complètement différente. Et après, l'impact au niveau biologique, raideur, faiblesse, machin, il est monumental. Donc, voilà, c'est encore une fois,
Et,
chaque
euh, et du coup,
situation
dans
clinique,
mon rôle
ces éléments-là, on peut les avoir
teneuse
en tête et
du
avoir
record
de
de la personne
cancer,
qui
plus ou
vient le
moins.
plus souvent dans ton podcast, je me permets de renvoyer les personnes qui écoutent vers un autre podcast qu'on a fait ensemble qui regardait la rééducation des croisés. C'est justement donc, dans un contexte plus trauma orthopédique, le rôle de tous ces facteurs. C'était une autre discussion que j'avais beaucoup aimé avoir.
Clairement, clairement. Merci pour le
Non, mais
rappel.
pas.
Ouais, non, clairement. Clairement. J'ai eu peur. Je me suis dit, là, je suis en train de radoter. Mais enfin, c'est pas si grave. Bon, après, et puis c'est fort probable. Hein. Mais de toute façon, voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. La chance, c'est que c'est suffisamment
La
complexe
dernière
et
chose que je
riche
voulais dire
pour
sur la
que
notion
probablement on
de
ne dise pas exactement la
réflexivité
même
et
chose trois fois à la
d'évaluation
suite.
qui
Ça
me vient,
t'empêche un
c'est,
peu
tu
aussi.
sais, on a parlé,
Ouais.
peut-être que du coup ça permet
Ok, bah,
de
super.
boucler la discussion, où on parlait de cette idée d'approche expérientielle et de l'apprentissage comme un échange de cadeaux, gift exchange. Et je me demande si aussi c'est pas dans la réflexivité et dans ce temps qu'on peut s'offrir à revisiter un peu les choses, qu'il y a ce cadeau-là en retour qui se dévoile au-delà de la satisfaction qu'on peut avoir à avoir une connexion, à aider les autres et à être en lien avec ces valeurs-là qu'on peut avoir en tant que soignant. Dans la réflexivité, c'est aussi là, peut-être que, comme tu disais, hein, de renforcer un sentiment de confiance en soi, d'efficacité personnelle, d'avoir géré des moments qui peuvent être difficiles. Et en fait, de prendre le temps de les reconnaître, c'est à ce moment-là aussi qu'on a ces cadeaux qui nous sont offerts. Et quand c'est des choses qui vont regarder plus sur des situations où on sent qu'on a eu du mal et on s'est senti en difficulté, ben en fait, c'est un cadeau de pouvoir en apprendre aussi de ça et de pouvoir prendre le temps de développer des nouvelles compétences, de nouvelles stratégies. Donc, parfois, il faut un peu de temps pour peut-être trouver quel était le cadeau que ce patient nous a offert, même si ça a été une séance très difficile qui semblait pas du tout être un cadeau au départ.
C'est ça. C'est le fameux learn to fail or fail to learn. Voilà, apprendre à échouer ou échouer à apprendre. Et après, tu vois, tout à l'heure, je parlais de patients qui nous offrent des chocolats. En fait, en gros, ils nous offrent un chocolat, mais si on, une boîte de chocolat, si on les bouffe à la vite et qu'on n'a même pas le temps de sentir quel goût ils ont, bah, c'est probablement une façon de prendre le temps de vraiment les apprécier, les analyser, les décortiquer et du coup s'autoriser un temps cette expérience-là parce qu'au final, manger un chocolat, alors oui, ok, peut-être il y a du magnésium, mais en gros, le plaisir, il est au moment où on mange, en gros, enfin, c'est là où on va retirer le plus de bénéfices, on va dire. Et clairement, si on ne prend pas ce temps de retirer le plaisir à ce moment-là, bah, après, c'est passé. Donc, voilà, moi, ça me fait un peu ce parallèle-là de savoir apprécier le truc et de s'offrir.
Voilà, on a fait le tour des quatre rôles. Et après, dans mon infographie, pour ceux qui iront voir, y avait un peu plus sur l'environnement dans lequel c'est pratiqué, mais ça dépendra un petit peu de chacun. Mais c'est... Et je pense qu'il n'y a pas besoin de développer ça ici, mais juste toujours regarder ces principes de on est quand même en lien avec, avec les preuves qui sont accessibles à nous. Les preuves scientifiques qui sont accessibles à nous à ce moment-là, en lien avec d'autres professionnels de santé qui font partie du parcours de soins du patient. Donc autant moi j'ai la chance d'être dans une équipe multidisciplinaire, donc c'est accessible sur le moment pour ce qui est infirmier, psychologue, mais le lien avec les médecins, le lien avec peut-être d'autres professionnels aussi hein, qui peuvent être impliqués, parce qu'on n'est pas tout seul, et ça c'est toujours important je trouve de se le rappeler, on n'est pas tout seul à accompagner la personne. Ces principes de voilà, centrer avec la personne, de partager des décisions. Et bon, après, il y a toute une autre discussion de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais je crois que tu as eu un podcast avec Clément récemment qui parlait un peu de ça. Et voilà, d'autres petites notions, enfin, d'autres grosses notions qui peuvent continuer d'être explorées, qui sont présentes dans ce poster, mais je pense pas qu'on va les ouvrir maintenant. Voilà.
Ouais, en tout cas, du coup, merci pour tout ça. Et
oui.
Bah, au final, là, ils ont déjà la réponse. Hein, ta présentation t'a permis d'avoir le poste, hein, clairement. C'était cool. Félicitations encore pour ça, même si c'est un peu vieux, mais quand même. Et. Moi, la question que je me pose, qui est bête, hein, mais c'est comment tu as pu exposer tout ça en 5 à 10 minutes parce qu'il y a tellement de richesse, et encore là, on se retient, hein, mais il y a tellement de richesse derrière ça que je pense que c'est vraiment une sacrée force d'arriver à le partager.
Et ben, je ne sais pas, mais.
Et d'une manière
c'est sûr que parfois, on a des contraintes qui ne sont pas négociables et. Je pense qu'évidemment, aucun des points n'était autant développé, mais après, ce qui est intéressant, et c'est aussi là que j'ai aussi beaucoup de chance par rapport aux gens avec qui je travaille, c'est qu'il y a la conscience que c'est un... La conscience de l'existence de la contrainte est présente pour tout le monde. Donc les personnes avec qui j'ai échangé savaient aussi qu'il y avait des limites d'exploration, et il y avait quand même un temps de discussion après la présentation du poster. Et ça revient peut-être à juste sélectionner une fois de plus ce qui est le plus important et accepter la frustration, accueillir la frustration qui peut se présenter dans l'envie de pouvoir en dire plus et d'échanger plus quand les contraintes font que c'est pas possible. Mais oui. Et c'est aussi un travail qui, en réalité, qui continue de se poser. Et je pense que j'ai encore beaucoup appris, ouais, ajouté beaucoup de choses de cet échange-là avec toi, hein, Guillaume. Parce que, en fait, il y a tellement de mots qu'on peut poser et le sens qu'on y donne continue de se développer et de changer avec le temps qu'on passe à peut-être se poser un peu ces questions quand on aime bien ça, mais aussi... avec l'expérience clinique et les discussions qu'on a, c'est des choses qui continuent d'évoluer.
Mm. toute cette richesse de d'y réfléchir, d'expérimenter, d'y réfléchir, etc., d'être dans ce cycle-là et de réaliser à quel point tous ces concepts sont plus riches et profonds que ce qu'on avait compris les premières fois. Et encore une fois, c'est ça qui est chouette et qui est intéressant. J'ai une de mes collègues, Aurélie Lacour, dans des cours d'entretien motivationnel, elle dit, rien que le concept d'entretien motivationnel, qui est qu'une petite partie de tout ça, en fait, elle voit ça comme un espèce de meuble gigantesque, infini, où il y a des tiroirs, et chaque fois qu'on fait des formations, il y a des tiroirs qui s'ouvrent de nouveau, ou un peu plus loin.
Et peut-être que la chose sur laquelle je voudrais terminer en parlant de tout ça, parce que ça peut faire un peu... un peu peur ou ça peut être un peu décourageant, mais en fait il y a vraiment cette idée d'être très humble, en fait, de prendre les choses de là où on en est, et de, en fait, ça donne beaucoup d'espoir, et moi je trouve que c'est très excitant de dire qu'il y a toujours des choses qu'on continue d'apprendre, qu'on continue de changer d'avis, et ce travail là il est satisfaisant. Donc il y a cette idée de... Parce que là, on a dit aujourd'hui, peut-être que si on avait la même discussion dans quelques mois ou années, ça serait différent. Et je pense que, approcher toutes ces choses-là avec beaucoup d'humilité, je pense que c'est important, ouais. Parce que sinon, on se bloque sur les choses qui sont difficiles pour nous, qu'on n'arrive pas à faire, et on peut vite faire le choix d'abandonner,
laisser tomber, ou de... Mais ça rejoint vachement ce que tu as dit sur les preuves scientifiques disponibles. Enfin, tu vois, c'est les preuves scientifiques disponibles à un moment T, c'est le niveau d'analyse, de réflexion disponible à un moment T, et on n'a pas... On peut pas avoir accès à tout ce qui a été écrit sur le sujet. Parce que Là, dans l'article dont on a parlé au début, qui mentionne certains auteurs clés par rapport à ce concept-là, etc. Et John Dewey, c'est 1920, autour de... Enfin, par là. Donc, en fait, c'est pas forcément des choses nouvelles, mais des choses qui ont dû être remâchées, redécouvertes, remises dans des contextes différents, d'époque, etc. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un peu sans fin. Et chacun, on est où il en est, à un moment donné, on peut pas tout explorer, tout connaître, et d'où l'importance de savoir identifier ses forces.
Et donc pour les personnes qui nous auront écouté jusque-là, peut-être qu'il y a justement cette question à se poser par rapport à vous, dans le contexte où vous êtes, par rapport à votre clinique, par rapport à où vous en êtes dans votre parcours professionnel, les choses qui vous intéressent en ce moment, le genre de difficultés que vous rencontrez en ce moment en clinique avec des patients, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez appris de cette écoute, qu'est-ce que vous voulez garder, et qu'est-ce que vous avez envie d'aller essayer, parce que juste l'écoute pourrait s'arrêter à quelque chose de très cognitif et c'est intéressant, mais en fait, quel sens vous donnez à cette écoute-là par rapport à vous et votre expérience?
Ouais, super, merci. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Donc, je te propose d'arrêter là-dessus, de laisser ce temps réflexif. Ok, écoute, je me permets quand même plus de te remercier.
Merci à toi pour l'échange également.
Pour l'échange, c'est toujours super cool et super intéressant.
À bientôt, certainement. Je reviens. Salut.